Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nicolas Delmas. Dernier volet de notre série consacrée aux forêts, après nous être intéressés lundi au lien entre agriculture et déforestation, mardi au commerce international du bois, hier à la jungle comme repère des guérillas. Tournons-nous aujourd'hui vers les peuples autochtones. De l'Amazonie à l'Indonésie, ils sont les premiers habitants des forêts tropicales, mais leurs voix sont rarement prises en compte. Un manque de considération qui peut tourner à la crise, comme aujourd'hui du côté de la Papouasie occidentale.
58 years.
Cela fait 58 ans que nous vivons sous le joug de l'Indonésie qui occupe illégalement notre territoire. La Papouasie occidentale n'a jamais fait partie de l'Indonésie. Nous sommes différents, géographiquement, culturellement, linguistiquement. Nous n'avons jamais fait partie de l'Indonésie.
J'ai déjà ordonné au chef de la police d'engager des poursuites judiciaires pour discrimination raciale et ethnique. J'invite également les dirigeants de Papouasie, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les chefs religieux à venir au palais présidentiel pour parler du bien-être en Papouasie.
Les Papous ne veulent pas de développement d'infrastructures ou d'aide sociale. Ce qui s'est passé à Surabaya a donné lieu à un racisme qui pousse les Papous aujourd'hui à demander la tenue d'un référendum d'indépendance.
Depuis le 19 août dernier, la moitié ouest de l'île de Nouvelle-Calédonie qui appartient à l'Indonésie est en proie à de violentes émeutes. C'est l'arrestation d'une quarantaine d'étudiants papous, le peuple autochtone de cette région, qui a mis le feu aux poudres. Les manifestations qui appellent à un nouveau scrutin d'autodétermination viennent couronner des mois de tensions croissantes, notamment au sujet de la construction d'une route controversée, la Trans-Papoua, qui doit traverser la forêt. Et si pour les autorités, le projet est au service du développement économique de la Papouasie et donc du bien-être de ses habitants, pour les Papous, en revanche, elle reflète la gouvernance par le haut, imposée sans concertation par Jakarta. Cette incompréhension est caractéristique des relations entre peuples autochtones et pouvoirs nationaux en Asie du Sud, mais aussi en Amérique latine, en Amazonie brésilienne par exemple. La situation s'est aggravée depuis l'élection de son président Jair Bolsonaro. Son discours anti-indigène a conduit les orpailleurs à reprendre la route de la forêt tropicale, menaçant ainsi la sécurité des Indiens, notamment des Yanomami, à qui les chercheurs d'or avaient déjà fait payer un lourd tribut dans les années 80. Alors de quoi la révolte des Papous d'Indonésie est-elle le révélateur? Comment expliquer alors que la reconnaissance des droits des peuples autochtones s'est imposée au sein des plus hautes instances internationales que leurs conditions se soient si peu améliorées? Et comment les impliquer davantage dans la prise de décision concernant leur propre territoire? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Irène Bellier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et puis vice-présidente du groupe international de travail pour les peuples autochtones. Vous m'avez repris tout à l'heure, avant de reprendre cette émission, vous m'avez dit c'est pas sur les peuples autochtones, c'est pour les peuples autochtones. Et ça, c'est important.
C'est important parce qu'aujourd'hui, les peuples autochtones, on leur a reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, ils deviennent, en effet, sont dotés de la personnalité juridique. Et ce changement de statut amène nécessairement un changement aussi dans la manière dont on va travailler avec eux. On n'est plus, effectivement, sur les gens, mais on travaille avec les gens.
On en reviendra, évidemment, tout à l'heure. Delphine Alès, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'INALCO. Vous avez été étonné, Delphine Alès, du surgissement de cette crise au sein de la communauté papou, où au fond, elle était déjà là, elle couvait depuis longtemps.
C'est effectivement une crise qui couve depuis très longtemps. On commence à en parler dans les médias internationaux à la suite de cet embrasement qui remonte au mois d'août, qui a suivi la mise en garde à vue de 43 étudiants papous dans la ville de Surabaya à la suite de l'accusation concernait la destruction d'un drapeau indonésien en marge de la commémoration de l'indépendance du pays. Mais le mouvement pour l'indépendance papou, le Free Papua Movement, il a été fondé en 1963. Il existait avant même l'intégration de cette province, de ces deux provinces aujourd'hui, de Papouasie occidentale au territoire indonésien en 69.
On y reviendra également à ce fameux référendum de 1969, encore aujourd'hui extrêmement controversé, mais vous pouvez nous préciser exactement qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette crise a éclaté? Vous nous parlez d'étudiants qui auraient piétiné un drapeau indonésien le jour de la fête nationale et en représailles, des policiers les auraient arrêtés, violentés. C'est ça qu'il faut comprendre?
Alors, un drapeau indonésien a effectivement été retrouvé, détruit, ce qui est interdit en Indonésie, à côté d'un dortoir d'étudiants papous. Il faut savoir qu'il y a de nombreux étudiants originaires de Papouasie dans les grandes villes universitaires indonésiennes, en l'occurrence Surabaya à Java, mais que la plupart du temps, ils habitent dans des dortoirs qui leur sont réservés. Ils ne sont pas mélangés avec les autres étudiants. Et donc, l'ensemble des étudiants, les 43 de ce dortoir, ont été placés en garde à vue, violentés vraisemblablement par la police, relâchés finalement faute de preuves. Et ça a donné lieu à des manifestations de nationalistes devant ce dortoir qui les ont attaqués, qui les ont traités notamment de singes, hein, ce qui est l'insulte régulière.
De singes et de chiens aussi.
De singes, de chiens et de mangeurs de porc, ce qui sont les insultes classiques qui sont proférées devant les papous en Indonésie. Et ça a suscité un embrasement, d'abord de dénonciation du racisme et des discriminations à l'égard des citoyens indonésiens d'origine papou, puis ça a débouché sur la reprise de ces revendications pour l'autonomie et en particulier pour la réorganisation d'un référendum d'indépendance.
Je vous donne la parole tout de suite, Irène Bellier, mais je voudrais juste avoir des précisions. Vous avez parlé de nationalisme. J'aimerais comprendre qui sont ces personnes derrière ces violences à l'égard des papous, des nationalistes, soit... Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, il y a en Indonésie un néo-nationalisme qui est de plus en plus audible et de plus en plus visible autour de la revendication d'une identité indonésienne, de l'intégrité territoriale de l'Indonésie. Et il se trouve que la cause pour l'indépendance de la Papouasie occidentale est l'une des dernières causes séparatistes vraiment visibles sur le territoire indonésien. Donc c'est un sujet de contestation important en Indonésie actuellement, d'autant plus qu'elle a tendance à s'internationaliser cette cause, et donc elle cristallise un petit peu les attentions des nationalistes indonésiens. Il faut savoir aussi que l'idée selon laquelle la Papouasie appartient au territoire indonésien est extrêmement consensuelle en Indonésie. Sur la scène politique indonésienne, il n'y a absolument pas de débat à cet égard. On l'a très bien vu dans les réactions qui se sont exprimées ou qui continuent à s'exprimer dans le contexte d'émeutes qu'on connaît actuellement. La classe politique n'est absolument pas divisée sur cette question-là.
Irène Bellier, il faut peut-être, je vous laisserai réagir librement, mais peut-être faire un tout petit peu d'histoire et rappeler l'histoire de ce territoire et son lien en particulier avec l'Indonésie, parce qu'il n'a pas toujours appartenu à l'Indonésie, c'est même assez récent.
Alors voilà, on remonte sur cette affaire de décolonisation mal réalisée, inachevée. La Papouasie Nouvelle-Guinée était... Bon, c'est une île, hein, donc d'un côté la Papouasie Nouvelle-Guinée qui appartenait à l'Australie et qui a été indépendante en 1975, et il y avait la partie occidentale de cette île qui appartenait aux Hollandais qui ont donné l'indépendance à l'Indonésie. Donc le territoire était disons resté hollandais. En 61, je pense que les Pays-Bas se retirent. En 63, l'Indonésie occupe ce territoire et l'occupe de manière autoritaire. Et à partir de là, se noue tout ce problème avec ce référendum d'autodétermination soi-disant de la partie de Papouasie occidentale où l'Indonésie a rassembler un volet un peu sélect de personnes qui étaient amenées à se prononcer. On dit 1025 chefs tribaux, dit-on. Et ce référendum, le résultat a été en faveur de l'annexion par l'Indonésie et a été, disons, les Nations Unies ont pris note de ce résultat. Et on est dans cette situation-là. Les Papous considèrent qu'ils ne sont absolument pas indonésiens. Ils ne souhaitent pas être indonésien, il souhaite effectivement le peuple autochtone papou, ils sont nombreux, ce sont quand même 250, comme on dit, tribus dans cette région du monde, à solliciter un véritable référendum qui serait à la fois sur la base de leur consultation et qui probablement pourrait incorporer des Indonésiens qui souhaiteraient rester dans une Papouasie occidentale libre. Parce que entre-temps, il y a eu un programme de transmigration et ça c'est très important. L'Indonésie développe un programme de colonisation, de peuplement pour mettre en minorité les Papous.
Je vous propose d'écouter tout de suite, et je vous donne la parole, un papou, fils d'un négociateur justement pour ce référendum de 1969. Il est là à New York, au cœur justement de l'Assemblée générale de l'ONU, dans la salle justement où a eu lieu ce vote. C'est un extrait d'un documentaire, Ça Paris, de Damien Faure.
Le 19 novembre 1969, dans cette salle, l'Assemblée générale a validé les résultats du référendum Acte de libre choix, que nous, papous, nous appelons Acte de non-choix. C'est pourquoi j'ai des frissons en marchant dans cette salle. Ça me ramène si longtemps en arrière, dans les années 60. Je pense toujours à mon père qui a passé des années de sa vie à New York pour défendre le droit à l'autodétermination. Le contenu des accords de New York devait nous garantir la liberté d'expression, d'opinion et de rassemblement pour que chaque individu de Papouasie occidentale puisse choisir en 1969 de devenir indépendant ou non de l'Indonésie.
Voilà, extrait de Sa Paris de Damien Faure. Delphine Alès, sur ce référendum de 1969, peut-être quelques mots sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui les papous le rejettent et sur l'hypothèse qu'avançait tout à l'heure Delphine Alès, en tout cas la revendication des papous, qui est d'un nouveau référendum d'autodétermination. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer ou absolument pas? On a aujourd'hui à la tête de l'Indonésie un homme qui s'appelle Joko Widodo, qui a plutôt, disons, l'image d'un démocrate. Faut quand même se rappeler qu'on est dans un pays qui a connu la dictature militaire. Quand il a été réélu début de l'année, au mois d'avril, contre un général, tout le monde a analysé cette victoire comme la victoire de la démocratie. Alors, est-ce qu'il serait prêt, ce démocrate indonésien, à envisager un nouveau référendum d'autodétermination, Delphine Alès?
Alors, pour répondre immédiatement à votre dernière question, non, il l'a immédiatement dit, ça a été redit d'ailleurs par la ministre des Affaires étrangères devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement indonésien en début de semaine. La question de l'organisation d'un nouveau référendum est totalement exclue du point de vue de la classe politique indonésienne. Et la vraie difficulté, c'est
pourquoi
que... alors justement, ça me permet de revenir aussi sur ce que disait Irène Bellier tout à l'heure. Les Nations Unies, vous aviez raison de le dire, sont présentes dans le processus depuis le départ, ce qui veut dire que... l'intégration de la Papouasie occidentale au territoire de l'Indonésie, depuis le départ, a été supervisée et validée du point de vue des organisations internationales. En 61, Sukarno, premier président, père fondateur de l'Indonésie moderne, a eu cette formule qui a été de dire qu'il était prêt à emprunter la main des Nations Unies pour réaliser cette transition et intégrer cette partie du territoire qu'il considérait, lui, comme appartenant naturellement au territoire d'une Indonésie qui devait aller du nord de Sumatra jusqu'à l'Irian Jaya, c'était le nom de la province à l'époque. Et donc en 61, sous la pression des États-Unis, les Pays-Bas finissent par accepter de négocier, sous la pression également d'ailleurs du fait que le conflit entre l'Indonésie et les Pays-Bas pour récupérer cette province commençait à se militariser. Il y avait des troupes indonésiennes avaient été parachutées sur la province de Papouasie occidentale et les Pays-Bas ne voulaient pas se réengager dans une nouvelle guerre de guérilla comme celle qu'ils avaient connue dans les années 40. Les Pays-Bas finissent par accepter de négocier. L'autorité de la province est passée à une autorité transitoire des Nations Unies entre 62 et 63 et finalement, à la condition d'organiser un référendum appelé Acte de libre choix, l'autorité passe à l'Indonésie. Donc cet acte de libre choix, il est organisé en 69 sous le nouveau gouvernement indonésien, celui de Suharto, et dans des conditions qui, effectivement, sont considérées comme ne permettant pas la libre expression du peuple papou, c'est-à-dire qu'on a sélectionné 125 représentants 1025 représentants de la population papou, qui étaient en fait des chefs tribaux, sélectionnés par l'autorité militaire indonésienne qui administrait la province à ce moment-là, et ils ont voté à main levée comme un seul homme, évidemment, en faveur de l'intégration au territoire indonésien.
Irène Bellier, pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Pourquoi Joko Widodo n'envisage absolument pas la possibilité d'un nouveau référendum et pourquoi pas l'émancipation de cette partie occidentale de la nouvelle Calédonie? Parce que, après tout, l'autre côté... c'était un territoire qui appartenait à l'Australie. Il y a eu un processus d'émancipation vis-à-vis de l'Australie qui a abouti en 1975 à une indépendance. Alors pourquoi est-ce que d'un côté l'Australie laisse justement s'émanciper cette partie du territoire et pourquoi l'Indonésie ne l'envisage pas?
Permettez-moi de juste une toute petite correction, parce que vous avez mentionné à deux reprises la Nouvelle-Calédonie, et pour les auditeurs, c'est important de ne pas confondre la Nouvelle-Calédonie et son référendum qui s'est déroulé avec la Papouasie, cette île divisée en deux, avec un État indépendant.
Vous faites bien, vous n'êtes pas tout à fait encore réveillé, vous faites bien, vous avez raison, merci beaucoup de me corriger, Irène Bellier.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée la Papouasie-Occidentale
de l'autre,
qui a été redivisée en deux provinces, comme l'a signalé Delphine Alès. Au départ, elle a été renommée Irian Jaya par l'Indonésie, puis redivisée en deux provinces. Pourquoi est-ce que l'Indonésie ne va pas lâcher cela? Sans doute parce que c'est une mine d'or, parce que ce sont des richesses absolument extraordinaires en termes de réserves gazières.
Et l'Australie ne le savait pas dans les années 70?
Mais l'Australie, elle a accompli son processus de décolonisation à sa manière.
Mais justement, pourquoi est-ce que l'Australie accepte de le faire à l'époque?
Je ne peux pas répondre sur la raison du pourquoi elle accepte de le faire à ce moment-là.
Non, parce que c'est un moment important. On peut même imaginer, pourquoi pas, que si le processus dans la partie australienne se déroule, on aurait pu imaginer une forme d'agrégation d'un mouvement papou qui traverserait l'ensemble de l'espace insulaire. Et puis, au nom d'une intégrité territoriale, au nom d'une culture commune, on est un mouvement d'émancipation de l'ensemble du territoire. C'est pas complètement fou à imaginer.
À l'époque, les Papous n'étaient pas si organisés que cela du point de vue du mouvement international des peuples autochtones, par exemple. Dans les années 60, cela n'existait pas encore. On était à ce moment-là dans un certain type de décolonisation, avec deux thèses qui concernent la décolonisation. Il y a ce qu'on appelle la thèse de l'eau salée et la thèse belge. Donc la thèse...
c'est quoi ça, la thèse de l'eau salée?
La Blue Water Theory, ça consiste à dire que du point de vue des peuples autochtones, je vous parle aussi de la manière dont on peut interpréter les questions d'autodétermination, la colonisation était reconnue comme les colonisateurs étaient ceux qui avaient traversé les océans. Donc, en gros, les Européens qui avaient été en Amérique ou ailleurs et qui avaient colonisé. Donc, ça concerne principalement l'Amérique, mais aussi l'Australie, mais aussi la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a la thèse belge qui naît dans ces années-là aussi, considérant que il restait dans les États dits indépendants des poches d'entités collectives, d'individus, de peuples, de communautés, de collectifs, qui relèvent effectivement de la situation des peuples autochtones et que l'on peut considérer comme appelant à l'autodétermination. Et donc là, il y a en fait dans la réflexion sur l'autodétermination depuis le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de la déclaration Woodrow Wilson en 1917 jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de réflexions, mais en gros, ça se distingue en deux volets, soit autodétermination avec sécession territoriale, remise en question de la souveraineté politique et de l'intégrité territoriale de l'État colonisateur, de la puissance administrante, ou alors autodétermination, disons, plus interne, sous forme d'autonomie et sous forme de, aujourd'hui, le point actuel des peuples autochtones du monde. On pourrait en parler, si vous voulez.
On va en parler.
380 millions de personnes qui sont concernées ne revendiquent pas nécessairement la séparation du pays qui les englobe, mais veulent être consultées et obtenir que leur consentement sur les projets de développement qui les concernent soit obtenu. Rien de cela ne se passe en Papouasie occidentale. L'Indonésie n'est pas du tout prête à consulter les peuples papous en l'occurrence, et impose, par exemple, il y a une proposition qui me paraît totalement surréaliste qui a été faite par le président actuel, donc vous le considérez comme démocrate.
Non, j'ai rien considéré, j'ai dit qu'il avait une image, de démocrate.
Voilà. C'est un président démocratiquement élu dans un pays pluraliste du point de vue des parti politique et qui a connu plusieurs transitions.
Mais un des
donc le caractère démocratique du régime indonésien n'est pas à remettre en cause.
La décentralisation relative d'ailleurs du pays depuis 2001, qui accorde une forme d'autonomie spéciale à la province de Papouasie. Ce qui ne veut pas dire que les populations papoues sont considérées comme des citoyens à part entière, et ce qui ne veut pas dire qu'ils ont qu'ils ont accès au même type de services publics que le reste du pays. Ça fait partie de leurs revendications.
Mais Delphine Alès, pardon, je je reviens moi avec ma question sur la raison pour laquelle aujourd'hui le pouvoir indonésien refuse d'envisager l'émancipation de ce territoire-là, parce qu'il y a quand même un précédent qu'il va falloir mettre sur la table aussi, c'est celui du Timor oriental, qui est un territoire qui a appartenu pendant près de 4 siècles aux Portugais, qui d'un coup a été comme ça envahi par l'Indonésie en 1975 avec une annexion unilatérale pure et simple, et il se trouve que ce territoire-là, en 99, il y a un référendum d'autodétermination, pardon, qui aboutit, lui, à l'indépendance du Timor oriental. Alors pourquoi ce qui se passe au Timor oriental ne peut pas se passer du côté de la partie indonésienne de la Papouasie?
Eh bien, le gouvernement indonésien s'appuie justement sur la distinction entre les deux situations. Vous l'avez bien dit, hein, l'annexion du Timor oriental était considérée comme illégale du point de vue du droit international. Chaque année, il y avait aux Nations Unies des appels à clarifier cette situation et donc à rendre son autonomie au Timor. Ça n'a pas été le cas dans le cadre de la Papouasie occidentale, puisque, encore une fois, le référendum de 69 a été supervisé par des observateurs des Nations Unies et a été entériné par une résolution l'année suivante, la résolution des Nations Unies 2504. Enfin,
Nations Unies peuvent entendre que si on a bien choisi les personnes de ce fameux panel, les 1025 papous, et qu'en réalité il n'y avait pas vraiment de caractère démocratique dans cette consultation, on peut peut-être revenir sur cette résolution, c'est pas fou.
Ils ont eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était notamment en 2017, à la suite d'une pétition présentée devant le Comité pour la décolonisation des Nations Unies, pétition présentée par le principal militant de la cause papou en exil actuellement,
Benny Wenda,
qui a obtenu la nationalité britannique. Pétition signée, semble-t-il, par 1,7 million de personnes et qui demandait effectivement la réorganisation d'un référendum. Le Comité pour la décolonisation a estimé que ça ne relevait pas de sa compétence. Et ça illustre très bien cette tension au sein de la Charte des Nations Unies entre les deux principes, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et celui de l'intégrité territoriale des États. Les Nations Unies considèrent que l'Indonésie, dans son territoire actuel, est un État décolonisé. Ça fait évidemment, c'est toute la source du débat sur place.
On est au cœur, Irène Bélier, de cette problématique et de ce droit à l'autodétermination, au fond, où s'arrête le droit à l'autodétermination. Évidemment, il y a la question de la souveraineté des États qui vient poser une limite très claire.
Tout à fait. Ce qui est important dans l'affaire des peuples autochtones, c'est leur reconnaissance, en effet, de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, on les reconnaît plus comme des populations, on les reconnaît pas comme des singes, on les reconnaît comme des peuples dotés de la personnalité juridique. Et donc, toutes les conditions d'exercice de ce droit à l'autodétermination dépendent à la fois du jeu international, de la des mobilisations internes et de la manière dont les États sont prêts à enfourcher ce véhicule de la décolonisation. Dans le comité spécial des 24 auquel faisait allusion, se référait des finalistes tout à l'heure, il y a 29 pays membres qui font partie de ce comité des 24, l'Indonésie en fait partie. Donc elle va bloquer systématiquement toute demande d'inscription de la Papouasie occidentale sur la liste des territoires à décoloniser. Il y en a 17, parmi lesquels figurent notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. À chaque fois, ce sont des rapports de force qui se jouent là. Mais dans ce même comité des 24, pour dire que la discussion n'est pas simple et tranchée, vous avez aussi Timor-Leste qui est dans ce comité, et vous avez aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on pourrait se dire, peut-être que les Papous pourraient avoir, sous le bénéfice, disons, de solidarité variée, un soutien. Je pense que pour l'instant, il y a des rapports de force, notamment une alliance, me semble-t-il, assez lourde entre les États-Unis et l'Indonésie pour bloquer toutes sortes d'évolutions de ce territoire aujourd'hui.
Il y a en revanche d'autres instances dans lesquelles la cause de la Papouasie occidentale est portée. Je pense en particulier à d'autres forums du type Forum des îles du Pacifique. L'été dernier, avant même le réembrasement de la crise que l'on connaît aujourd'hui, Benny Wenda, que vous évoquiez, a été intégré à la délégation de Vanuatu pendant le Forum des îles du Pacifique, ce qui lui a permis de porter cette cause papou, qui a fait l'objet d'une déclaration du forum qui a rendu assez furieuse l'Indonésie, qui n'est pas membre du Forum des îles du Pacifique, mais qui a un statut d'observateur et de collaborateur particulier. Donc il y a d'autres instances internationales qui permettent permettent d'exprimer cette revendication. Il y a effectivement un soutien, et en particulier de la part des peuples du Pacifique. Mais pour le moment, aux Nations Unies, effectivement, la question semble bloquée. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères indonésienne, Retno Marsudi, évoquait récemment la candidature de l'Indonésie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2020-2022. Le vote aura lieu le 16 octobre prochain. Et elle disait que ce serait justement l'occasion d'internationaliser le soutien à l'intégrité territoriale de l'Indonésie, ce qui est une manière de contrer justement l'internationalisation de la cause papoue.
Irène Bélier, 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors c'est un texte qui est le fruit d'une longue histoire, de longues discussions, négociations qu'on peut faire remonter aux années 70 et même avant. Vous racontez d'ailleurs très bien cette histoire dans cet ouvrage des Nations Unies aux sociétés locales qui était paru chez l'Harmattan. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que prévoit ce texte, cette déclaration, et le bilan qu'on peut en faire 12 ans après?
La déclaration, l'article central de la déclaration, c'est l'article 3. Donc les peuples autochtones ont droit à disposer d'eux-mêmes, et à ce titre, ils peuvent décider librement de leur développement social et économique.
On a un premier problème là, on va s'arrêter. C'est quoi un peuple autochtone? Est-ce qu'on définit, par quels critères on dit que telle communauté est un peuple autochtone?
Durant 25 ans, il y a eu des discussions, des négociations. Les États, justement, demandaient, mais c'est quoi la définition précise et quelle va être la liste des peuples à qui cette déclaration va s'adresser? Les peuples autochtones négociateurs qui ont participé et c'est la première fois que des individus bénéficiaires d'un instrument participent à la négociation eux-mêmes de l'instrument, donc c'est quelque chose de très nouveau. Ils ont dit, nous ne pouvons pas vous donner de définition parce que, justement, nous sommes produits d'une discrimination, de la construction des États modernes qui nous ont relégués dans des situations de marginalisation. Et ces situations de marginalisation, elles ont été identifiées à travers le monde par une étude qui a commencé en 1972 d'un rapporteur spécial qui s'appelle José Martínez Cobo et qui a produit une définition de travail. Donc pas une définition substantielle, mais une définition de travail.
Qu'est-ce qu'elle
dit ? Les populations autochtones sont des peuples et des nations qui occupent, qui étaient là sur le territoire avant l'arrivée d'autres personnes qui disposent de leurs institutions propres, de leur langue, de leur système de justice et qui sont déterminées à les transmettre aux futures générations. Donc c'est il y a plusieurs critères là qui sont inscrits à l'intérieur de cette déclaration, l'occupation totale ou partielle d'un territoire, la détention d'institutions propres, de langue et la volonté d'aller vers les prochaines générations. Et c'est cela qui permet, selon les différents pays dans le monde, il existe 90 pays aujourd'hui dans lesquels on considère qu'il existe des peuples autochtones. La France fait partie de ces 90 pays, mais la France, par exemple, ne va pas reconnaître les peuples autochtones à l'intérieur de son dispositif juridique et constitutionnel. Elle va reconnaître des populations d'outre-mer et elle va donc pas admettre cette notion de peuple autochtone qu'elle va reconnaître pour les ailleurs. Et donc, par exemple, en Amérique latine,
la France a signé cette déclaration. Quatre pays qui l'ont pas fait, c'est les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie,
qui sont depuis revenus sur leur décision en 2009 et 2010 et qui donc l'ont adoptée. Et l'Indonésie également. L'Indonésie s'était abstenue lors du vote et l'Indonésie a reconnaît la déclaration des droits des peuples autochtones en 2017. Et à l'intérieur de l'Indonésie, il existe un mouvement autochtone assez fort qui commence maintenant à dialoguer avec le pouvoir de différentes façons, notamment à travers les plateformes sur le développement durable, la biodiversité, le changement climatique. Là, il y a des formes d'entente. Mais moi, j'ai assisté à plusieurs réunions au sein des Nations Unies dans l'ensemble qui discute des droits des peuples autochtones et de l'application de cette fameuse déclaration où l'Indonésie se considère comme partie prenante en effet du dialogue, mais va systématiquement bloquer l'expression des papous qui viennent revendiquer l'autonomisation et plutôt l'indépendance. Donc cette déclaration, elle prévoit beaucoup de choses. Elle prévoit en 46 articles qui, d'ailleurs, le 46e article est important parce que il dit aussi qu'il ne faut pas remettre en question la souveraineté politique et l'intégrité territoriale et que les droits des peuples autochtones qui sont des droits collectifs, le principal apport de cette déclaration, c'est d'incorporer des droits collectifs au dispositif international des droits humains qui repose plutôt sur des individus. Donc là, c'est important de dire, les peuples autochtones Ils ont besoin de traitements collectifs, par exemple, de terres, de territoires sur lesquels ils vont pas avoir une propriété individuelle des sols pour pouvoir eux-mêmes cultiver leur lopin de terre, mais ils vont avoir des manières de se relier à la terre et de pouvoir partager. Et donc, il y a un rapport au foncier, à la terre et à ses ressources, qui est très très différent de ce que l'on admet dans nos cultures ou dans nos domaines politiques.
Delphine Alès, est-ce que cette déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, est-ce que ça peut être autre chose qu'un simple principe déclaratif ?
Alors, du point de vue du gouvernement indonésien, finalement, la reconnaissance de cette déclaration ne pose pas véritablement problème, parce que le problème est considéré comme réglé par la devise nationale, qui est celle de l'unité dans la diversité. La difficulté étant qu'il y a une approche de ces populations qui est essentiellement folklorique, avec d'une certaine manière une reconnaissance de coutumes, de traditions locales, mais pas du rôle politique ou des revendications politiques de ces populations. Et je crois que ça renvoie précisément à la tension qui est très importante et qui est au cœur du conflit actuel entre les militants de la cause papoue et le gouvernement indonésien, qui est qu'on ne parle pas de la même chose. D'un côté, le gouvernement indonésien aborde ces populations et leurs difficultés sous un angle qui est le plus dépolitisé possible, c'est-à-dire sous un angle, je le disais, folklorique d'un côté et développementaliste de l'autre, en estimant qu'il suffit d'amener du développement économique en construisant des infrastructures. Vous évoquiez l'autoroute transpapouasienne tout à l'heure. On pourrait parler de l'immense pont qui fait plus de 700 mètres que le gouvernement construit également à côté de Jayapura. Donc une approche dépolitisée qui considère que le développement va résoudre tous les problèmes, alors que les militants de la cause papoue sont porteurs de revendications de nature politique qui sont de plus en plus sophistiquées, qui sont de plus en plus organisées internationalement, et ils demandent une représentation et une reconnaissance de leur dignité.
D'accord, ils sont peut-être pas sur le même terrain, mais si l'on regarde ce que, par exemple, les papous pensent de la vision développementaliste du gouvernement, ils n'ont pas l'air franchement d'adhérer à tout cela. Ce fameux grand chantier transpapouas, un grand chantier, une grande route lancée sur cette partie donc occidentale de l'île, c'est 4000 kilomètres qui est censé désenclaver ce territoire. D'abord, je propose peut-être d'écouter justement une vidéo promotionnelle de cette fameuse route qui pose problème.
Bukan hal mudah membangun jalan Trans-Papua.
Ce n'est pas simple de construire cette route Trans-Papua. Le terrain est souvent accidenté au vu du relief et des contrées sauvages qu'elle traverse. Nous comprenons bien les difficultés qu'ont à surmonter les travailleurs sur place. Le but de cette route est de désenclaver les régions isolées, faire diminuer le prix des biens de première nécessité et augmenter la connexion entre les différentes régions de la Papouasie occidentale. Tout cela pour que la vie de la population sur place soit plus égalitaire.
Voilà, cette vision-là, Delphine Alès, c'est une vision que rejettent précisément les papous. C'est pas seulement qu'on n'est pas sur le même terrain. Cette vision du développement du territoire, du désenclavement du territoire, les papous n'en veulent pas.
Alors, je pense que les deux sont pas exclusifs. Les papous ne rejettent pas le développement et souhaitent évidemment aussi acquérir à des prix plus faibles des biens de première nécessité. Faut rappeler aussi que le président Jokowi a été élu à 90% dans la province de Papouasie occidentale. Donc, il bénéficie sur place d'une relative popularité.
Enfin, entre lui et le général.
Il y avait seulement deux candidats à cette élection. Et c'est vrai qu'il a eu un soutien massif parmi les minorités en Indonésie. Mais si on prend les gouverneurs des deux provinces actuelles, ils sont issus de son parti politique. Donc, il n'y a pas un rejet de la vision développementaliste, mais ça ne suffit pas. C'est pas exclusif des autres revendications qui concernent la dignité, la reconnaissance, davantage d'autonomie et surtout une capacité pour les populations papoues à bénéficier du produit des ressources économiques. C'est une province qui est extrêmement riche. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une mine d'or. La plus grande mine d'or et de cuivre du monde se trouve dans cette province. Alors au départ c'était
et les papous sont favorables à l'idée d'exploiter tout ça,
et en tout cas ils voudraient pouvoir décider et bénéficier du produit de leur éventuelle exploitation. Ils sont pas d'accord avec le fait que on déforeste des forêts qu'ils considèrent comme les leurs, mais qui du point de vue juridique appartiennent au gouvernement indonésien, parce que c'est le cas des forêts en Indonésie, elles sont nationalisées. Il n'y a pas de reconnaissance des droits de propriété locale, ce qui pose évidemment problème quand on cherche à les exploiter ou qu'on accorde des concessions sur ces terres qui sont considérées comme déjà occupées ou utilisées par les populations locales.
Irène Bélier, sur cette opposition, sur cette question du développement des territoires qui régulièrement, on le voit dans une multitude d'exemples, pose problème au peuple autochtone.
C'est totalement central. C'est-à-dire que depuis les débuts de la colonisation, en gros, les peuples autochtones souffrent de la volonté de la part des conquérants. On les appelait conquistadors, on peut les appeler dominants, on peut les appeler indonésiens aujourd'hui, qui visent à faire rendre, disons, toute valeur à ces territoires qu'ils considèrent comme non exploités par justement ce forme de racisme et de discrimination qui consiste à dire que ce sont des gens primitifs et qui ne savent pas tenir une agriculture correcte ni même générer du profit comme c'est nécessaire. Et les peuples autochtones, depuis le début de leur mouvement, contestent ces formes de développement qui vient s'imposer à eux, qu'ils rejettent pas nécessairement le développement, comme le disait Delphine Alès, mais ils souhaitent avoir un mot à dire sur la manière dont celui-là va s'imposer. Et donc il y a l'actuel rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones qui s'appelle Victoria Taoli Corpus des Philippines, qui a élaboré avec des collègues un concept et un livre tout à fait intéressant sur la notion de développement autodéterminé. C'est-à-dire que ils veulent en effet avoir un mot à dire sur les types de projets qui sont... On a parlé des mines à l'instant, mais on pourrait aussi parler de la déforestation, de la palme à huile, de ces immenses surfaces de forêts qui sont transformées pour l'industrie mondiale de je sais pas, Nestlé, PepsiCo, en fait, etc., qui sont en train d'utiliser ces produits-là. Et les populations locales, elles voient passer... Elles ne souffrent en gros que de ce qui reste par exemple toute leur manière de vivre avec la forêt, toute leur connaissance du monde, toute leur relation aux espèces naturelles, à la faune, à la flore, tout ça vole en éclats.
Il y a une menace d'acculturation finalement qui va.
Mais total. Et ce que disent les Papous est très simple également. Regardez, nous ne sommes pas indonésiens. Regardez, mettez un indonésien et un Papou côte à côte, vous verrez très bien qu'il y a une très grande différence entre les uns et les autres. Et derrière le mouvement des peuples autochtones, il y a l'idée qu'il y a des cultures, des systèmes de vie, des économies diversifiées dont on a besoin, qu'on doit conserver aussi pour conserver cette biodiversité. Il y a tout à l'heure, peut-être on passera en Amazonie, mais il y a un leader assez vocal en ce moment qui s'appelle David Guarani et qui a en une minute porter une voix très très forte, considérant et annonçant que les peuples autochtones, c'est 5% de la population mondiale qui conserve 92% de la biodiversité. Donc on voit l'écart énorme. Et pourquoi est-ce qu'ils conservent cette biodiversité? Parce que justement, ils sont dans des zones et qu'ils ont des modes d'exploitation économique qui sont d'impact bien plus faible que l'extraction industrielle de cette plus grande mine d'or, cette plus grande mine de cuivre. Et puis ces palettes qui partent en Chine, cette déforestation pour la palme à huile.
C'est exactement ce qu'on voit du côté aujourd'hui de cette Papouasie occidentale. Delphine, je parlais de cette route. Il y a un certain nombre de Papous qui disent regardez déjà les effets, parce qu'il y a déjà des portions de route qui existent. Regardez les effets de la construction de cette route. C'est effectivement des palmiers à huile qui sont plantés. C'est aussi des gens qui changent leur mode alimentaire, qui arrêtent de manger le taro local, le tubercule local, et qui se mettent à manger du riz qui est en réalité importé, c'est tout ça aussi. Donc on les voit bien, les effets. Ce développement, il va aussi avec une forme d'acculturation qui, évidemment, pèse sur l'avenir de ces peuples.
Oui, il y a une acculturation qui est aussi accélérée par les programmes de transmigration qui sont mis en place en Indonésie depuis les années 80, avec l'arrivée massive de populations extérieures à la province vers la Papouasie occidentale. Aujourd'hui, on parle des Papous et de la cause Papou, mais en fait, si on regarde la population, il y a à peu près 3,4 millions de personnes qui habitent en Papouasie occidentale. Plus de la moitié, en fait, est originaire de Java. Et ce qui fait que les Papous, parmi leurs revendications, il y a le fait que leur culture devienne finalement minoritaire dans cette province. Alors, il y a un certain nombre de compensations qui sont mises en place par le gouvernement indonésien, notamment le fait de reconnaître, par exemple, des modes de prise de décision considérés comme ancrés dans les traditions locales, mais on reste encore une fois dans la folklorisation et pas dans la capacité de ces populations à s'exprimer réellement. Donc, un exemple qui a été assez visible, hein, pendant la dernière élection présidentielle. Une partie significative des Papous n'ont pas voté selon le système classique, un homme, un bulletin dans une urne, etc., mais ont voté selon un système traditionnel, le Noken, qui donne en fait une responsabilité particulièrement importante aux leaders traditionnels. Donc c'est un vote collectif à l'issue d'un consensus au niveau du village.
On est avec vous, Delphine Alès, et vous, Irène Bélier, dans cette semaine consacrée aux forêts du monde. Aujourd'hui, des Papous aux Yanomami, les peuples autochtones éternels oubliés. Bah, précisément, on va aller du côté de l'Amazonie et parler de ces Yanomami.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Seigneur terre, seigneur forêt, passe à fome.
Sans la forêt et sans la nourriture surviennent les maladies, la famine, le manque de nourriture. La santé et la forêt sont liées, elles sont deux. Le progrès, la croissance, le blanc trouve ces mots jolis. Mais pour moi, ils ne le sont pas. Ces mots, pour moi, signifient la destruction de la forêt et l'extermination des Indiens. Notre richesse de la terre est là.
Voilà, cet homme qu'on vient d'entendre, c'est Davy Kopenawa, porte-parole des Yanomami, qui sont un peuple autochtone de la forêt tropicale d'Amazonie, qui vivent aux environs de la frontière entre le Brésil et l'Amazonie. Près d'un tiers de leur population a été décimée dans les années 80 lorsque les orpailleurs ont massivement investi leur territoire réputé riche en or, assassinant ses habitants pour s'approprier les ressources, répandant des épidémies également. Et depuis 92, le territoire des Yanomami est protégé, ce qui a permis de mettre fin à l'hécatombe. Mais depuis quelques temps, il semble que les orpailleurs soient de retour. Alors comment le comprendre ? Bonjour François-Michel Le Tourneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS. Vous connaissez particulièrement bien les Yanomami. Vous avez d'ailleurs écrit un livre en 2010 consacré à cette communauté. Il semble que ces derniers mois, les orpailleurs reviennent en masse sur ce territoire des Yanomami. Pour quelles raisons et jusqu'où est-ce qu'on peut, parce que bien sûr on a en décor de fond l'arrivée de ce nouveau président Jair Bolsonaro au début de l'année, est-ce qu'il faut lier ce retour des orpailleurs à l'arrivée du président Jair Bolsonaro ?
Alors, comme vous l'avez souligné, le territoire Yanomami est très riche en or, donc les orpailleurs sont toujours aux aguets et à l'affût. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs retours et depuis quelques années, ce retour est particulièrement massif. En fait, dès que le gouvernement fédéral brésilien baisse un peu la garde, les orpailleurs reviennent et réenvahissent le territoire. Il se trouve que, bien évidemment, le gouvernement actuel est particulièrement peu enclin à protéger les territoires amérindiens, donc ça explique un petit peu la ruée en ce moment, même si il faut dire qu'il y a quand même une opération de l'armée brésilienne cet été.
Donc ça veut dire que depuis 92 et la protection de leur territoire, il y a en réalité eu plusieurs fièvres. Il n'y a pas là une rupture fondamentale depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro.
Non, il y a une pression constante, on va dire. Simplement, il y a eu des périodes pendant lesquelles la répression a été plus efficace. Et par ailleurs, la pression était un petit peu moindre puisque le cours de l'or était un petit peu moins élevé. Et depuis quelques années, on a un peu une conjonction de diverses choses. Après, oui, le gouvernement de Jair Bolsonaro n'est pas complètement une rupture puisque depuis quelques années, depuis quelques gouvernements, déjà dès la fin du gouvernement de Dilma Rousseff et particulièrement sous le gouvernement de Michel Temer, on avait déjà un petit peu les mêmes tendances à un laisser-faire en Amazonie.
On rappelait que Michel Temer avait remplacé Dilma Rousseff suite à sa destitution. François-Michel Le Tourneau, les conséquences très concrètement du retour des Garimpeiros sur le territoire des Yanomami ?
Pour les villages qui sont proches des zones qui sont exploitées, les conséquences elles sont désastreuses parce que d'abord, comme vous le disiez, le contact avec les orpailleurs amène toutes sortes de maladies, donc un retour du paludisme et des maladies contre lesquelles les Yanomami sont peu immunisés, notamment la tuberculose, la rougeole, les grippes, etc. Et puis c'est aussi souvent une espèce de famine qui s'installe parce que les orpailleurs créent une situation d'insécurité, donc les habitants n'osent plus trop sortir des villages pour aller faire des collectes ou aller dans leur culture. Et en même temps, le gibier est pas mal chassé par les orpailleurs, qui également détruisant les fleuves et les cours d'eau amènent une raréfaction des ressources halieutiques. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui pèsent sur les populations qui sont directement affectées.
Et pourtant, François-Michel Letourneau, il y a un certain nombre d'entités, d'associations, d'ONG, de fondations qui sont là pour défendre cette communauté. Alors on pense évidemment à la FUNAI, la Fondation Nationale de l'Indien, on pense à la Commission Pro-Yanomami, à laquelle appartiennent par exemple l'anthropologue Bruce Albert que vous connaissez, ou alors David Kopenawa, justement ce chef chaman qu'on entendait à l'instant. Que peuvent toutes ces entités, ces commissions, ces associations pour essayer de défendre les intérêts de cette communauté? Quelles sont leurs marges de manœuvre politique, médiatique, juridique aussi, diplomatique, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui. Sur le plan juridique, en principe, la constitution brésilienne garantit le droit aux Yanomami à leur territoire. Donc la question, c'est de mettre la pression sur le gouvernement brésilien pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour faire respecter ce qui est sa propre loi. Le problème est bien évidemment que le gouvernement actuel est extrêmement réticent. Les associations et les entités dont vous parlez ont peu de force sur le terrain. C'est valable pour les ONG qui sont présentes à un certain nombre d'endroits mais qui ne peuvent pas s'opposer frontalement aux orpailleurs. Mais c'est le cas aussi pour la FUNAI qui est chroniquement sous-financée. Et donc ce qui se passait jusqu'ici, c'était principalement une interpellation du gouvernement brésilien par les médias et notamment à l'étranger. Le problème, c'est que ce gouvernement actuel semble particulièrement imperméable à cette pression-là. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais il peut y avoir des processus en justice qui peuvent amener à certaines actions.
Vous restez avec nous, hein, François-Michel Letourneau. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Réaction ici en plateau avec vous, Irène Bellier.
Oui, je crois que François-Michel Letourneau a raison de montrer, de dire que le gouvernement brésilien est particulièrement résistant actuellement aux pressions internationales. Je crois que le rôle aussi des ONG, des commissions, des Nations Unies, de ces différentes personnes qui peuvent éventuellement faire des visites, et votre rôle ici aussi, c'est de faire connaître les situations. Parce que sinon, ils pèsent une espèce de chape de plomb et les violations de droits humains qui sont en train de se multiplier dans le monde et que l'on actuellement la situation Yanomami, ce sont aussi des situations de violation de droits humains, violation de la propre constitution, violation des droits de ces peuples à disposer d'eux-mêmes et à rester tranquille. Il faut en parler. Si on n'en parle pas, eh bien on a affaire à des
C'est très bien, mais il faut aussi des actes.
Ben oui, mais les actes, ils vont suivre à un moment donné, par exemple.
De la part des Nations Unies, les Nations Unies peuvent mettre la pression sur Jair Bolsonaro ?
Il y a certainement des possibilités du côté des accords internationaux. Je pense que là ça serait probablement plutôt du côté de la société civile internationale de montrer son rejet d'un certain type de développement justement qui est violateur des droits fondamentaux des personnes, qu'elles soient autochtones ou pas autochtones, mais c'est très important.
Oui, on touche à la limite qui est celle des Nations Unies, qui est un club d'États qui reste des États souverains, et donc en dehors du Conseil de sécurité, il n'y a pas de possibilité de faire pression de manière effective sur des États. On l'a bien vu dans le cas de l'Indonésie. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, a essayé d'aller se rendre sur place, de se rendre compte de la situation. L'Indonésie a dit qu'elle était la bienvenue, mais concrètement, quand les visites ont dû être organisées, on lui a opposé des obstacles organisationnels qui ont fait qu'elle n'a pas pu se rendre sur place librement.
Vous parlez des sociétés civiles, Irène Bellier. C'est peut-être une question qu'on peut se poser à propos de la société brésilienne elle-même, François-Michel Letourneau. Outre les actes et les agissements du gouvernement pour affaiblir effectivement les droits des indigènes. Que pense la société brésilienne de tout ça? Est-ce qu'elle se préoccupe réellement des peuples autochtones, de leurs droits, ou est-ce qu'en réalité, c'est pas un sujet et donc il ne faut pas véritablement s'attendre à ce que l'opinion brésilienne fasse pression sur le gouvernement sur ce sujet?
Oui, alors c'est une question complexe. D'abord, pour revenir juste deux secondes sur ce qui a été dit sur la pression internationale, il faut souligner que la reconnaissance de la terre Yanomami en 92 a justement été le résultat d'une campagne interne et externe, donc de la pression internationale et de la pression de la société civile brésilienne à ce moment-là. Depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on observe une moindre mobilisation de la société civile brésilienne autour des questions amérindiennes, un petit peu parce que la population, pour certains segments, se dit « ben voilà, maintenant le problème a été réglé » et il ne l'est pas. Donc, dans quelle mesure cette mobilisation peut reprendre, c'est un point un petit peu ouvert, mais disons que
vous y croyez pas tellement.
Qui fédère les oppositions au gouvernement Bolsonaro.
Vous y croyez pas tellement, visiblement.
C'est pas que j'y crois pas tellement, j'attends de voir comment ça va pouvoir se faire. En fait, ce gouvernement attaque par tellement d'endroits que les oppositions sont un petit peu pulvérisées parce qu'elles sont attaquées de tous les côtés.
Et alors justement, est-ce que il y a un risque sous l'effet combiné de ces attaques, d'une forme aussi peut-être d'indifférence de l'opinion brésilienne, il y ait l'émergence, le jaillissement d'un déferlement de violence du côté des peuples indigènes? Est-ce que c'est une hypothèse qu'il faut envisager? Que finalement, tous ces peuples indigènes finissent par faire justice eux-mêmes et répondent aux nombreux assassinats des leurs, etc.
Comment dire, un déferlement, non, je ne pense pas. Maintenant, la situation sur le terrain est conflictuelle avec des morts et des assassinats des deux côtés depuis longtemps. Donc là encore, c'est pas vraiment une nouveauté. Bien évidemment.
Non, mais ça s'aggrave. Quand on regarde les chiffres, ça s'aggrave.
Oui, tout à fait, ça s'aggrave, mais effectivement, les réactions de leur côté s'aggraveront aussi. Mais je pense pas, enfin, on va pas arriver à une situation de guerre civile, ça me paraît peu probable. Mais par contre, que les conflits larvés actuels continuent, oui, ça c'est tout à fait plausible, et même, c'est déjà le cas.
Irène Bélier, Delphine Alès, en guise de conclusion, on arrive au terme de cette émission.
Je crois qu'il a, il a raison de signaler l'aggravation des conflits. Aujourd'hui, dans le monde, on assiste à une multiplication des conflits. Le rapporteur spécial sur la situation des droits, enfin, la situation des défenseurs de droits a élaboré un rapport montrant que 385 assassinés, 60% étaient autochtones pour des causes autochtones et environnementales en 2017. Partout dans le monde, on a une plus grosse pression de la part des lobbies. Des lobbies industriels, des lobbies de l'agribusiness, de l'industrie extractive, qui ont leur propre police, qui ont leur propre milice, qui ont etc. Et les peuples autochtones, bien qu'ils aient cet ensemble de droits qui leur est reconnu aujourd'hui, doivent lutter pour que ça soit appliqué. Et nous, société civile internationale et monde européen, monde occidental développé, on doit avoir cette responsabilité-là de ne pas accepter ces types de développement qui passent par En gros, aujourd'hui encore, on pourrait très bien considérer qu'il faut se débarrasser des peuples autochtones. Ce que fait l'Indonésie aujourd'hui, considérant qu'il n'y a pas de problème autochtone pour l'Indonésie. Elle nie le problème, elle ne veut même pas le voir.
Delphine Alès.
Oui, pour répondre à votre question, je pense que l'une des raisons pour lesquelles la situation aujourd'hui est potentiellement explosive, c'est l'accentuation du décalage entre la situation effective de ces populations et l'augmentation de leurs attentes liées à la visibilité de ces causes, à leur organisation transnationale et, dans le cas de l'Indonésie, à la démocratisation du pays qui était porteuse de très grands espoirs qui n'ont pas été réalisés.
Mwen kap marire mwen, mwen e fetre mwen, gade zoni mou mwen. Desize mwen fini, mwen kap wankan ouwa. Mwen kap mande, mwen kap levezye mwen, mwen mande kouaj a la divinite.
Merci beaucoup à François-Michel Letourneau qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai pour les auditeurs cet ouvrage « Les Yanomami du Brésil, géographie d'un territoire amérindien » qui était paru chez Belin. Merci beaucoup Irène Bélier. Vous concernant par exemple avec Leslie Cloud et Romain Lacroix, « Les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux sociétés locales », c'était chez l'Harmattan. Merci également Delphine Alès. Allez, je rappelle vous concernant un monde fragmenté que vous avez coécrit avec Romain Malviac et Stéphane Paquin autour de la sociologie des relations internationales de Bertrand Badie, puis aussi l'émergence de revendications libertariennes en Asie du Sud-Est. On a beaucoup parlé de ça. Merci infiniment. Il est 11h52 minutes. C'est presque l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle économie, guerre commerciale. Brice, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine va-t-elle impacter la croissance mondiale? C'est la question que vous vous posez?
Tout le monde dit le redouter en tous les cas. Et Nouriel Roubini, l'un des augures les plus écoutés de la planète économique, expliquait récemment pourquoi, à son avis, nous risquons, oui, une récession américaine et mondiale. Il y a d'abord, dit-il, cette guerre commerciale lancée par Trump contre le concurrent chinois qui ne jouerait pas selon les règles. La construction systématique de barrières douanières à l'entrée des produits de consommation aux États-Unis ne peut manquer de provoquer un renchérissement de leurs prix de vente. Les Américains ne vont pas se mettre d'un seul coup à fabriquer chez eux les t-shirts et les machines à laver qu'ils ont l'habitude d'importer. Les consommateurs américains vont juste les payer plus cher. Leur pouvoir d'achat en sera rogné d'autant. Cette guerre pourrait vite se dérouler sur deux fronts, commercial et monétaire, puisque la Chine menace de répliquer aux tarifs douaniers américains en faisant chuter la valeur de sa propre monnaie face au dollar. Elle va avoir, cette guerre, des effets désastreux sur le commerce mondial. La mondialisation est en train de faire place à une balkanisation régionale. Or, celle-ci menace de désorganiser la fameuse chaîne de valeur qui fait que votre iPhone, par exemple, est conçu, produit et assemblé dans toute une série de pays différents en fonction des spécialisations locales. Les droits de douane vont peser sur le prix des composants, des intrants intermédiaires et alourdir ainsi le prix des produits en bout de chaîne. En effet, poursuit Nouriel Roubini, la guerre commerciale se double d'une lutte entre les deux superpuissances pour la primauté dans les industries du futur, intelligence artificielle, robotique, etc. Et à cet égard, la prééminence dans le domaine de la 5G apparaît comme déterminante à brève échéance, car cette technologie, équipant les objets connectés, n'importe lequel de nos appareils domestiques ou professionnels pourrait servir à nous espionner. Or, si Huawei devait l'emporter, ce qui semble être le cas, eh bien les Américains seraient amenés à considérer une énorme quantité de produits chinois comme autant de menaces pour leur sécurité nationale. C'est pourquoi, selon Roubini toujours, la récession proviendra de ce qu'on appelle un choc d'offre négatif. Il y aurait une réduction de l'offre causée par une altération sévère des conditions de production. Pour l'instant, les prévisions de croissance pour l'économie ne sont pas réellement alarmantes. La croissance mondiale était l'an dernier de 3,6%. Elle est attendue cette année à 3,1%. Mais les observateurs ont relevé fin août un de ces signes qui annonce les récessions aux États-Unis, une inversion de la courbe des taux d'intérêt. En effet, lorsque les rendements des taux d'intérêt des bons du Trésor américain à long terme, par exemple à 10, voire à 30 ans, sont inférieurs à ceux à court terme, c'est qu'on est arrivé en fin d'un cycle. Un tel phénomène s'était déjà produit en 2007. On connaît la suite.
La suite, c'était la crise. Alors comment, Brice, sortir de cet affrontement qui ne menace pas seulement la croissance mondiale, mais aussi la paix du monde?
À court terme, selon Chang Jin-wei, ancien chef économiste de la Banque asiatique de développement, le ralentissement de la croissance américaine, voire le risque en effet de récession, va calmer les ardeurs belliqueuses de Donald Trump. Car la Chine n'a plus les moyens de relancer l'économie mondiale comme elle l'a fait en 2008-2009. Dans un premier temps, poursuivant sur sa lancée, la balance commerciale américaine avec la Chine va encore se détériorer, mais plus la croissance américaine va faiblir, et ben moins le pays va importer tout simplement. Et de son côté, l'ancien gouverneur de Bank of India, Raghuram Rajan, pense que la crise actuelle de la mondialisation a pour cause le refus des États-Unis de jouer plus longtemps le rôle d'hégémone bienveillant, je cite, d'un système de commerce et d'investissement fondé sur des règles. Les économies avancées ont tenté d'imposer aux pays du Sud, notamment à travers des traités commerciaux de libre-échange, les règles environnementales et sociales qu'ils ont décidé de s'appliquer eux-mêmes. Ils ont également tenté de leur imposer une interprétation très stricte des droits de propriété intellectuelle. Mais les émergents, menés par la Chine, ont refusé de se laisser ainsi lier les mains. Ils ont retardé l'ouverture symétrique de leur propre marché. Et aujourd'hui, le système mondial est en crise parce que les Américains ont réalisé qu'il ne leur était plus favorable, aussi le torpillent-ils. Or la Chine, je cite toujours cet économiste indien, « Or la Chine peut être ralentie, mais non pas arrêtée. Lorsqu'elle aura atteint, dit-il, une certaine puissance, on peut s'attendre à ce qu'elle impose d'autres règles, les siennes, et qu'elle en devienne à son tour le gardien. Sinon, le monde, je cite toujours, pourrait se diviser en deux ou plusieurs blocs déconnectés et mutuellement méfiants, mettant fin au flux de personnes, de production et de capitaux qui les relient aujourd'hui. » Fin de citation, avec à la clé, bien sûr, un risque de guerre.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi, Brice, hein, parce que le vendredi, il n'y a pas de chronique.
Mais
bien
j'ai une chronique en ligne.
Voilà,
on peut la consulter,
la chronique
on peut la lire,
vendredi,
mais pas l'écouter.
On peut la lire sur le site de France Culture. Merci beaucoup, Brice. On se retrouve donc lundi. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.